Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
À toutes et à tous, donc en effet Sébastien Sureau du pôle transition écologique du MEDEF. Voilà, on est très heureux en effet de vous retrouver à l'occasion de ce webinaire consacré à la thématique de l'eau. En fait, on ouvre une série de webinaires consacrés à ce thème-là, notamment voilà, à la suite de la sécheresse 2022 qui, je crois, a montré un petit peu, voire beaucoup, notre dépendance à cette ressource en eau et les enjeux qu'il y avait autour de cette thématique. Et donc, on ouvre donc cette série de webinaires par l'intervention donc des représentants du ministère de l'Environnement qui vont venir nous présenter un petit peu l'état ou les enjeux relatifs à notamment le passage de l'été 2023. Donc on va accueillir juste après donc Isabelle Camille qui au sein de la direction de l'eau et de la biodiversité a justement en charge la gestion des politiques en faveur de la gestion de l'eau. Donc voilà, pendant une petite demi-heure, elle va nous présenter un petit peu ces enjeux-là. Et puis ensuite, on accueillera donc Jean-Luc Perrin et Loïc Malgorn de la direction de la prévention des risques, donc qui viendront notamment évoquer devant nous les évolutions réglementaires attendues concernant notamment les industriels, donc évolutions qui sont attendues pour l'été 2023. Voilà, et donc vous pouvez notamment nous poser des questions via le chat, c'est le plus simple, sachant que voilà, on les reçoit en direct et on n'hésitera pas à proposer ces questions à nos différents intervenants. Voilà, je laisse la parole à Madame Camille pour se présenter, et puis nous, on va passer les diapositives. Merci. Votre micro est fermé, Isabelle. Je pense que... Pardon, Madame Camille.
Oui, ouais, mais je...
Bonjour à tous, Isabelle Camille, enchantée. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Effectivement, on est ravis, je pense aussi bien notre direction que celle effectivement du coup de mes collègues qui interviendront juste après, d'avoir l'occasion d'échanger avec vous sur du coup cette gestion du risque sécheresse qui effectivement a déjà occupé et préoccupé au cours de l'été 2022 et qui effectivement est un sujet je pense du coup majeur pour les prochaines années. L'idée, c'est peut-être de revenir effectivement sur l'épisode de sécheresse de 2022 et puis de faire un état des lieux, y compris un peu administratif du coup de l'organisation de l'État et puis du coup à tous les échelons. Hein. Encore une fois, on y reviendra, de la mobilisation notamment des préfets pour gérer cette situation de ce qu'on appelle la gestion structurelle de la ressource en eau et de voir comment, en cas de crise également, l'État est organisé pour mettre en place un certain nombre de mesures de restriction à l'égard de l'ensemble des usagers. Donc, je pense qu'on peut peut-être passer à la première diapositive pour revenir sur la sécheresse 2022 qui a été effectivement inédite, non seulement dans sa durée, mais également par son étendue géographique. Vous retrouvez ici, donc j'en profite effectivement pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pour du coup j'allais dire, faire la publicité du site Propluvia, qui est en place depuis un certain nombre d'années, qui malheureusement a connu un certain nombre de déboires l'été dernier, compte tenu du nombre de connexions. Le site avait effectivement explosé en vol, et normalement, il sera plus résilient cet été. Et on y reviendra en plus parce qu'on a un projet et un autre outil en cours de développement. Sur le site de Propluvia, vous pouvez retrouver, y compris en retournant dans le passé, j'allais dire, puisque vous pouvez sélectionner une date à laquelle vous souhaitez, si vous souhaitez consulter l'ensemble des arrêtés de restriction en vigueur en métropole. Voilà. Donc, vous retrouvez ici l'épisode qui, effectivement, n'a pas concerné que les départements du sud de la France, notamment. Et on voit, pour la situation au 1er septembre 2022, en bas à droite, le fait qu'on avait 93 départements qui avaient franchi le seuil de vigilance et, du coup, 78, je suis désolée, je ne vois pas bien sur la diapositive, mais du coup, qui étaient, du coup, au niveau de crise. Donc, on y reviendra, donc, au moins sur une partie de leur territoire. La sécheresse donc a été inédite également par sa durée et par son intensité. On a du coup dès le mois de mars des premiers départements qui ont basculé dans un système de gestion de la sécheresse. Ça s'est poursuivi très tardivement, y compris jusqu'en automne et même au début de l'hiver, où d'ailleurs on avait une mission d'inspection qui était chargée de faire le retour d'expérience sur la sécheresse, alors que finalement elle n'était toujours pas terminée, ce qui confirme effectivement d'ailleurs, hein, que sur les prochaines années, les sécheresses ne seront plus uniquement estivales et pourraient perdurer sur un certain nombre d'années, puisqu'effectivement, les prévisions montrent qu'on pourrait aller sur des sécheresses qui s'étendraient même sur 4 années consécutives. Les températures, donc ça, on l'a tous ressenti, ont également été extrêmes tout au long de l'été 2022 et au-delà, effectivement, des vagues de chaleur qui ont été inédites, notamment dans certaines villes. On a eu une sécheresse des sols très importante en France, vu que, en l'occurrence, c'était la plus importante depuis 1958. Et pareil, on a connu, je pense que c'était la première fois en France qu'on mettait autant d'énergie à recommuniquer sur le risque de rupture d'alimentation en eau potable sur un certain nombre de collectivités, et pas uniquement, par ailleurs, hein, des communes isolées, rurales, du coup, en zone de montagne ou autre. On a vraiment eu, du coup, des problèmes d'alimentation en eau potable, ou en tout cas frôlé la crise en eau potable sur un certain nombre d'agglomérations. Bien entendu, au-delà de simplement refléter l'état des lieux très administratif, hein, des arrêtés de restriction en vigueur, l'ensemble des services des différents ministères, par ailleurs, à chaque fois, font remonter un certain nombre d'alertes sur les conséquences du coup de la sécheresse et des mesures de restriction associées. Le but est encore une fois de suivre l'impact, y compris pour les acteurs économiques, de la tension sur la ressource, et y compris du coup de la sécheresse lorsqu'elle s'est installée sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, on a un certain nombre d'opérateurs et nos services de l'État qui sont mobilisés pour, alors, d'une part, faire un état des lieux, ce qui nous concerne en premier chef d'un point de vue ministère de l'écologie, un état des lieux du milieu, donc effectivement avec un certain nombre de remontées d'informations de la part du BRGM, de la part de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, etc., pour suivre du coup ce qu'il en est aussi bien dans des eaux superficielles que du coup sur le réseau d'eau de surface, les eaux superficielles, les cours d'eau, savoir où on en est en termes notamment de rupture d'écoulement des cours d'eau. Et là, pareil, on avait quand même battu les records, puisqu'au 1er août 2022, on avait 1260 cours d'eau qui étaient en rupture d'écoulement, du coup avec des problèmes, bien sûr, de continuité écologique et de mortalité piscicole associée. On suit également avec le réseau des DDT et des DRAF ce qui se passe en termes de rendement agricole, avec effectivement des sujets d'inquiétude importants sur les fourrages. Hein. Ça a été remonté par beaucoup de préfectures, le fait qu'on avait des rendements agricoles en baisse importante, donc de 15 à 30% en moyenne sur certaines filières. Du coup, ce qui n'était pas sans inquiétude sur toute la chaîne ensuite. Un niveau historiquement bas également du côté de la production hydroélectrique, où là, effectivement, on a eu un niveau inférieur à 20%, de 20% à la moyenne des 5 dernières années. Et puisqu'effectivement, du coup, on était mobilisés pour assurer le soutien d'Etiage, mais dans la durée, par ailleurs, hein, à l'aval des barrages hydroélectriques. Et on a un certain nombre du coup d'acteurs économiques hein, qui étaient à l'arrêt, notamment donc les laveurs auto, les stations de lavage ne pouvant plus fonctionner dès lors qu'on a atteint un certain niveau de gravité, et puis des impacts notamment sur certaines activités touristiques, nautiques. Et on y reviendra, je pense que du coup on a un certain nombre d'acteurs économiques qui ont dû s'adapter à cette situation. Peut-être que du coup, alors effectivement, avant de passer peut-être à l'été 2023, même si je veux bien déjà la diapositive d'après, suite à ce qu'on a appelé la sécheresse 2022, qui a duré effectivement à peu près jusqu'à la fin de l'année, finalement, donc je veux bien la diapositive, s'il vous plaît. Je pense que du coup, on revient effectivement sur ce qui s'est passé juste derrière. Donc, il y a très peu de temps, donc au début de l'année, on a à nouveau du coup pu constater cette fois-ci non plus une sécheresse estivale, mais une sécheresse hivernale, puisque et avec un mois de février qui était très particulier, vu qu'on a eu un mois de février avec une trentaine de jours du coup consécutifs sans pluie, donc un mois de février très sec, voilà, qui a confirmé ce qu'on craignait, à savoir du coup une recharge très très limitée des nappes sur l'automne-hiver 2022-2023 et par ailleurs du coup un remplissage des barrages et réservoirs qui assurent normalement le soutien d'étiage du coup de certains fleuves et grands cours d'eau qui étaient particulièrement faibles avec notamment déjà des niveaux d'alerte sur la Loire et la Garonne. Donc effectivement, on a une sécheresse en réalité qui en tout cas une sécheresse importante en février qui nous laissait un espoir sur mars-avril de recharger un tout petit peu les nappes et de réhumidifier les sols. Ça a été le cas, on a eu des précipitations sur mars-avril, mais effectivement avec même voilà, des sols qui sont dans une situation plus humide que la normale en moyenne sur la France, même si du coup c'est vraiment très hétérogène vu qu'on y reviendra, mais voilà, on a notamment toute la région PACA, la Corse et l'Est de l'Occitanie qui ont peu profité de ces pluies, et ce d'autant plus qu'à partir du mois de mars, les pluies ne sont plus efficaces pour la recharge des nappes et contribuent uniquement en réalité au développement de la végétation. C'est ça qui est un peu compliqué par moment pour la population. On retrouve ici du coup au 1er mai 2023 ce qu'il en était, donc les dernières données qu'on a, on va bientôt obtenir les données de mai 2023, ce qu'il en était de la situation des nappes, donc qui de fait suite à la sécheresse hivernale est peu satisfaisante sur une grande partie du pays. On a 68% des niveaux des nappes qui sont sous les normales mensuelles en avril, et avec de nombreux secteurs qui affichent déjà des niveaux bas ou très bas. Du coup, vous voyez ici notamment les inquiétudes à nouveau du coup sur l'arc méditerranéen et la Beauce. On peut peut-être passer. Voilà, du coup, aujourd'hui, au 30 mai, donc à hier en réalité, ce qu'il en est en termes de mesures de restriction associées à cette situation de sécheresse prolongée, on est déjà donc à fin mai à sur le pourtour méditerranéen avoir une situation compliquée, certains secteurs du coup qui sont en crise sécheresse, on reviendra derrière hein, sur ce que ça emporte ensuite en termes de restrictions d'usage, 13 départements au niveau national qui sont en alerte renforcée, 6 départements qui sont déjà en alerte et du coup 24 départements en plus de cela du coup qui sont en vigilance. Donc ça c'est l'état des lieux qu'on retrouve sur Propluvia, la carte de gauche, donc vraiment je vous invite à aller sur Propluvia, regarder, télécharger la carte nationale, mais autrement du coup saisir pour votre département ce qu'il en est et retrouver la situation en termes de restrictions chez vous. La carte de droite, qui est celle sur laquelle le ministre a pu communiquer il y a 2 semaines à l'occasion du coup de ce qu'on, en quelque sorte, notre comité sécheresse nationale, qui est le comité d'anticipation et suivi hydrologique, le CASH. Donc en fait, on a chaque année pour habitude d'essayer d'établir une carte qui anticipe, qui essaye de montrer les secteurs où on imagine avoir un risque important de sécheresse au cours de l'été 2023, en croisant justement les données issues de Météo France, les données sur les nappes souterraines du coup du BRGM, les données du coup sur les eaux superficielles et notamment du coup les données de l'OFB. On regarde d'ores et déjà où est-ce qu'il y a des mesures de restriction qui ont été enclenchées. Et on regarde l'humidité des sols et normalement, du coup, on arrive à établir une carte, donc c'est celle qui est sur votre droite, où on voit qu'on a clairement un été difficile qui se profile, donc non seulement sur la Corse, le pourtour méditerranéen, tout le marais poitevin, en fait, hein, du coup, que vous connaissez également, qui est vraiment en tension structurelle, et également, du coup, toute la grande couronne francilienne et même au-delà, du coup, qui a d'ores et déjà des niveaux très bas, du coup, sur les nappes souterraines. Tandis que la petite couronne, effectivement, est alimentée autrement. L'idée de ce webinaire, c'est au-delà du coup de Propluvia, donc merci, je vois qu'il y en a qui mettent le lien vers Propluvia dans le chat. L'idée, c'est de peut-être que chacun réapproprie l'ensemble du dispositif de gestion de la sécheresse, puisse savoir où retrouver effectivement les informations relatives à l'état des ressources en eau et qu'on puisse vous préciser également en termes d'informations sur les restrictions en vigueur, alors à la fois plutôt grand public en réalité, mais également ensuite, ce sera l'occasion de passer la parole à nos collègues de la DGPR pour ce qui concerne notamment les acteurs qui sont spontanément un peu plus au courant compte tenu de leur activité économique, donc à la fois les agriculteurs et puis les industriels. On peut peut-être effectivement vous rappeler le cadre réglementaire qui a été complètement finalisé tel qu'il est aujourd'hui en 2021 par décret du coup du 23 juin 2021 relatif non seulement à la gestion quantitative de la ressource en eau au sens large et tout particulièrement à la gestion des situations de crise sécheresse. En tout cas aujourd'hui l'organisation administrative qui a été effectivement finalisé dans ce texte et c'est les instructions qui en découlent, donc notamment l'instruction qui en a découlé du 27 juillet 2021 et puis celle qu'on vient d'adresser à l'ensemble des préfets de départements, de régions et de bassins le 16 mai dernier, permettent effectivement de clarifier les rôles à toutes les échelles de l'organisation administrative de l'État notamment. En l'occurrence, au niveau de chaque grand bassin hydrographique, donc les 6 grands bassins hydrographiques de France, donc Adour-Garonne, du coup si je pars Rhône-Méditerranée-Corse, du coup on a Rameuse, Seine-Normandie, Artois-Picardie. Il en manque un, non, je crois pas. Ça en fait que 5. Si, bah, il manque Loire-Bretagne, bien sûr, du coup, autour de la Loire. Oui, merci, du coup, à ceux qui me soufflent. Donc voilà, sur ces 6 grands bassins, on a à chaque fois un préfet de région qui est désigné préfet coordonnateur du bassin, puisqu'on a effectivement une échelle qui est à cheval sur plusieurs régions. Le préfet de bassin, lui, détermine à son échelle, justement, les secteurs sur lesquels on doit avoir des arrêtés cadres interdépartementaux, du coup, qui doivent être mis en place, et définit également les règles générales, donc traduit ce qu'il y a notamment dans le décret du 23 juin 2021 et applique les circulaires qu'on réalise au niveau national, notamment pour clarifier ce qui se passe quand on franchit les seuils, quand les conditions, du coup, notamment du coup les seuils, les piézomètres sur les eaux souterraines, les débits et hauteurs d'eau du coup sur les cours d'eau sont franchis. Donc quels sont les délais et les modalités à la fois de prévenance des acteurs et les modalités effectivement de prise de mesures de restriction. Donc ça, c'est à l'échelle du bassin. On définit notamment donc, c'est cette réactivité, les règles de transparence, notamment sur, y compris les adaptations qui peuvent être demandées au niveau local, et définit également, du coup, voilà, ces secteurs où on a, soit sur les nappes souterraines, en réalité, des périmètres qui sont bien au-delà d'un seul département, soit sur les autres surfaces également, du coup, quels sont les secteurs sur lesquels il est important d'avoir une coordination interdépartementale. Ensuite, du coup, la balle est vraiment dans le camp de chaque préfet de département qui est à la manœuvre sur son territoire pour, du coup, cadrer au maximum l'exercice justement avant qu'on se retrouve en crise. Donc ça, c'est ce qu'on essaie d'expliquer à l'ensemble des acteurs avant la période de sécheresse. C'est que normalement, le contrat, j'allais dire, en tout cas, les règles du jeu doivent être connues avant qu'on rentre en période de sécheresse potentielle et donc de potentielles mesures de restriction, puisque l'arrêté cadre départemental normalement est discuté dans ce qu'on a appelé longtemps le comité sécheresse à l'échelle départementale, qui s'appelle aujourd'hui le comité ressources en eau, et qui réunit l'ensemble des acteurs concernés. Donc on retrouve non seulement l'État, les collectivités, mais également l'ensemble des usagers, les associations de consommateurs. Enfin, on retrouve effectivement les différents représentants, y compris du coup les industriels et acteurs économiques concernés. Donc, normalement, on définit dans l'arrêté cadre départemental ce qui va se passer quand on franchit du coup tel ou tel seuil sur les eaux superficielles et les eaux souterraines. Et pour chaque niveau de gravité, donc il y a quatre niveaux de gravité, je crois que c'est peut-être ma diapositive d'après, mais du coup, on définit quels seront les usages qui pourront perdurer ou non. Donc voilà, donc ça c'est l'arrêté cadre. Et normalement, du coup, donc ça c'est calé avant l'été, si je résume, si on part du principe que c'est une sécheresse estivale, mais on voit que c'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, on définit avant la crise au niveau départemental ce qui va se passer. Et normalement, du coup, on ne fait que suivre et appliquer ensuite les règles qui sont définies dans cet arrêté cadre départemental, qui est vraiment, encore une fois, j'allais dire, le contrat local. Et donc, quand les seuils ensuite sont franchis, donc là, on a tout notre suivi des hydromètres, du coup, notamment, etc., et puis le suivi des piézomètres. Et quand les conditions sont franchies, normalement, le préfet, du coup, applique l'arrêté cadre départemental. Donc, normalement, c'est sans surprise pour les acteurs. C'est là où on insiste à chaque fois sur les territoires, puisqu'en fait, du coup, c'est simplement, voilà, on a un arrêté qui acte le fait que les seuils ayant été franchis, l'arrêté cadre en vigueur s'applique, et donc on a une restriction voilà, d'un certain nombre d'usages qui en découle donc, jusqu'à donc, sur une durée illimitée, sauf nouvel arrêté mettant fin, encore une fois, à la période de restriction. Donc voilà, vous retrouvez toutes ces précisions dans le guide qu'on vient de mettre à jour, le guide national sur la sécheresse, qui est disponible sur le site du ministère. Pareil, on pourra vous mettre le lien, je ne sais pas Sébastien si tu es connecté, mais voilà, du coup, on peut vous passer également tout ça qui est écrit à l'attention notamment des services de l'État, mais en réalité du grand public pour mieux connaître. Voilà, donc c'est le guide de mise en œuvre des mesures de restriction des usages de l'eau en période de sécheresse que vous retrouvez là, donc vous retrouvez là la couverture. Je veux bien du coup oui, qu'on passe directement du coup à concrètement les quatre niveaux dont je parlais tout à l'heure. Il y a quatre niveaux de gravité. Il y a le niveau de vigilance où là du coup il n'y a pas de mesure de restriction. En réalité c'est voilà clairement les indicateurs commencent à basculer au rouge. On sent que ou on pressent qu'on va avoir une tension sur le secteur et donc on passe en vigilance pour encore une fois commencer à informer, à sensibiliser et à essayer du coup de limiter au maximum les prélèvements dans le milieu pour que encore une fois on bascule pas sur les étapes d'après en termes de gravité, puisque du coup les étapes d'après c'est notamment l'alerte renforcée puis la crise, où là sur ces trois niveaux là on a des restrictions associées dans le tableau du coup qui figure dans le guide national sécheresse. Vous retrouvez à chaque fois ce qu'il en est, donc il y a bien une progressivité qui est souhaitée pour les différents usages. en fonction de ces trois niveaux de restriction, alerte, alerte, renforce et crise. Donc, vous retrouvez ce qu'il en est en termes d'arrosage des cultures, de remplissage des piscines, du coup, de laveur auto, on en a parlé tout à l'heure, d'arrosage des arbustes et des arbres. Vous retrouvez pour les différents types d'usages. Ce qui peut en être à chaque niveau de gravité. C'est un socle minimal, ce qui figure dans le guide national. Progressivement, du coup, les préfets de département sont amenés à se conformer à ce guide national, du coup, des mesures minimales à prendre à chaque niveau de gravité, et ils peuvent les adapter, donc en réalité les durcir, s'ils le souhaitent, compte tenu des enjeux sur le territoire, donc notamment si on a prévu dans le guide la poursuite d'un usage. D'une activité en alerte renforcée, alors sur son territoire, il est très concerné par cette activité-là et estime que s'il la poursuit en alerte renforcée, en réalité, il va directement aller dans le rouge et que ça serait contre-productif. Il décide effectivement d'adapter et de moduler ce qu'on a prévu, donc en durcissant la règle. Le but est effectivement, idéalement, de ne jamais passer en crise. Je pense qu'on aspire tous à ça. Donc, c'est vraiment le sens du propos sur le fait qu'on raccroche bien cette gestion de crise, bien entendu, à plus globalement la gestion structurelle de la ressource. Effectivement, si on n'arrive pas à passer ces périodes de crise, c'est que généralement, du coup, on a un déséquilibre entre les besoins, du coup, sur la ressource et, du coup, sa capacité de recharge, chaque année, en tout cas sur la durée. Du coup, je veux bien qu'on passe à la diapositive d'après, où vous retrouvez d'ailleurs une partie du tableau des mesures minimales de restriction des usages, qui vous indique à chaque fois normalement ce que chaque préfet est censé appliquer. Et encore une fois, on est sur un processus d'actualisation progressive de ces arrêtés cadres départementaux, ce qui fait que c'est possible que sur certains territoires, vous ne retrouviez pas encore précisément ce qui figure là. Je veux bien passer à la diapositive d'après pour vous dire du coup où retrouver l'ensemble de la situation sur la ressource, donc comment vous informer de l'état de la ressource en eau. Je disais tout à l'heure, il y a les données Météo France qui sont disponibles, qui donnent les informations sur les précipitations et la sécheresse des sols. On a le BRGM, donc le Bureau de Recherche Géologie Minière, qui précise ce qu'il en est sur le niveau des nappes d'eau souterraines. On a le CHAPI, qui à la base fait de la prévention des inondations, mais qui est également mobilisé pour donner des données sur les débits des cours d'eau. On a l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui également fait des campagnes terrain pour regarder ce qu'il en est sur les cours d'eau et notamment nous faire part des ASEC constatés. Et on a bien sûr nos grands opérateurs, VNF sur la partie navigation et EDF sur la partie production d'hydroélectricité, qui nous donnent au fil de l'eau les données sur l'état de remplissage des barrages réservoirs et des canaux. S'agissant de Météo France, on vous a remis ici les prévisions saisonnières relatives aux précipitations pour le trimestre en cours, hein, mai-juin-juillet 2023. Donc effectivement, on constate qu'on a une probabilité de sécheresse qui est importante sur la France et puis en réalité sur le sud méditerranéen, le sud de l'Europe. L'idée, c'était peut-être également, puisque il est finalement pas évident à la fois de traduire les arrêtés cadres départementaux et les arrêtés sécheresse lorsqu'ils sont publiés. Donc ça, on en est bien conscient qu'aujourd'hui, les PDF que vous pouvez retrouver au recueil des actes administratifs de votre département sont pas faciles à lire. Donc bien que vous les retrouviez à la fois sur Propluvia et sur les sites des préfectures concernées, l'idée est bien, et c'est une attente forte de notre président de la République, d'avoir d'ici juillet prochain une mise à disposition pour le grand public des restrictions en vigueur par une saisie simple de son adresse postale et qui permettra du coup à chaque particulier de savoir exactement ce qui s'applique à lui. Donc en l'occurrence, ce sont bien les données donc du site internet Propluvia, hein, qui est alimenté par nos directions départementales des territoires, hein, les services police de l'eau notamment, qui donc ces données vont être valorisées dans un site internet. Le site en question, c'est préservonslEau.gouv.fr. C'est le site qui sera prochainement mis en service, sur lesquels on a une grande campagne de communication qui devrait démarrer au cours des prochains jours, et avec des spots radio, etc., qui vont communiquer largement sur cette adresse, du coup, préservonslEau.gouv.fr, où au-delà de retrouver les éco-gestes associés du coup à une bonne gestion de l'eau, chacun pourra également retrouver facilement les restrictions qui s'appliquent à lui ou non, enfin en tout cas savoir s'il est concerné déjà par des mesures de restriction, rien qu'en saisissant effectivement son adresse. Idéalement, on a aussi Météo France qui est en train d'embarquer les données relatives à notre site internet pour que lorsque vous consultez la météo sur le site Météo France, vous soyez également informé en même temps de la situation en matière de sécheresse et donc en fait de savoir si votre commune est concernée ou non par un arrêté et des mesures de restriction associées. Encore une fois, je parle bien des particuliers, donc on y reviendra juste après, notamment s'agissant des activités économiques qui ont des règles dédiées. On en profite également pour dire que l'ensemble des données sécheresse, justement, donc l'ensemble de ce qui est remonté par les opérateurs dont on parle tout à l'heure et ce qui est saisi sous Propluvia, est en train d'être mis en open data sur du coup datagouv.fr, le site effectivement du gouvernement de mise à disposition des données. Donc pareil, vous pourrez retrouver facilement ces données. Je ne sais pas si j'avais prévu d'autres choses. Je pense que c'était la dernière diapositive.
Oui, en effet, c'était la dernière diapositive. Merci beaucoup, Madame Camille, pour cette présentation. Déjà pas mal de questions dans le chat, notamment des questions concernant les restrictions pour les industriels, hein, qu'on en parlera juste après, donc avec les représentants de la DGPR. Mais au-delà des industriels, peut-être deux questions un peu générales. La première, ça vient d'un constat qui a été fait en 2022, qui est que parfois les décisions de restriction d'un territoire à l'autre sont pas toujours très cohérentes, et donc se pose notamment la question quelque part de ce processus, hein, que vous nous avez présenté et qui en pratique peut présenter des couacs ou des incohérences. Ça, c'est le premier point peut-être, et donc comment est-ce que le ministère va faire évoluer son processus pour s'assurer en effet qu'il y ait une cohérence et qu'il n'y ait pas de distorsion entre les acteurs et que la règle soit à peu près claire et suivie. Ça, c'est le premier point. Et puis le second point, c'est et ça concerne en particulier le secteur du lavage auto, hein, donc il y a pas mal de commentaires dans le chat sur ce secteur-là. C'est quelque part comment se fait le choix des restrictions et des secteurs qui sont soumis à restrictions. On pense au lavage auto, mais aussi que les acteurs de tourisme de plein air, et en particulier ceux qui ont des piscines, ouais, s'inquiètent beaucoup. Les golfs s'inquiètent beaucoup également. Voilà, donc on a quelques secteurs qui sont entre guillemets visés par ces restrictions. Et voilà, c'est vrai que certains considèrent que ils sont peut-être un peu l'activité qui est pointée du doigt, alors qu'ils sont parfois relativement efficients au regard d'autres activités. Donc voilà.
Bon, merci. Du coup, je vais démarrer directement par la deuxième question avant de revenir sur la première et de l'hétérogénéité entre les départements. Sur la deuxième question, donc effectivement, je pense qu'il y a eu souci, y compris là dans l'actualisation du guide national, de tenir compte. Alors, ce qu'on appelle quand même, c'est la hiérarchie des usages. Donc effectivement, tout le monde est conscient du fait que, alors, on a sacralisé, hein, l'alimentation en eau potable. Je pense que progressivement, on travaille quand même collectivement à justement bien clarifier ce qui relève de l'eau potable et ce qui relève des usages associés à cette eau potable. Je pense qu'il y a une prise de conscience globale sur le fait que, bien sûr, il ne faut pas mettre en péril du coup l'alimentation en eau potable, mais pour autant, ça ne veut pas dire que tout ce qui sort du robinet en termes d'eau potable, du coup, qui ne serait pas utilisé à des fins en fait alimentaires ou de santé publique, du coup, pourrait perdurer, alors qu'à côté de ça, on est en train de prendre des mesures de restriction, soit pour des usages agricoles ou industriels. Donc ça, je pense qu'on en est tous pleinement conscience. Conscient, pardon, et que voilà, ça fait partie du travail d'application de ce guide national pour indiquer que ça n'est pas notamment parce qu'on est alimenté en eau potable pour arroser son jardin qu'en réalité, du coup, l'activité est possible, puisqu'en fait, on est bien sur une restriction des usages et pas une restriction de l'origine de l'eau. Donc, il y a cette question de hiérarchie des usages qui a été prise en compte dans l'établissement du tableau des mesures minimales figurant dans le guide. Il y a un vrai souci de progressivité et il y a un vrai travail qui a été fait avec les acteurs, y compris donc pour le coup les golfs, les laveurs auto, etc., pour tenir compte de leurs efforts. Donc, en l'occurrence, même quand on passe certains niveaux de gravité, vous pouvez constater dans le guide qu'il y a du coup la volonté de maintenir l'activité dès lors que notamment il y a des dispositifs de recyclage. Du coup, de ces, notamment par exemple là, sur les laveurs auto, donc dès lors qu'on est sur des programmes éco ou du coup des fils de lavage sur lesquels on fait du recyclage, il y a la possibilité de maintenir l'activité autant que possible, encore une fois, donc pas en période de crise, puisqu'effectivement là on est vraiment sur l'ultime niveau où on est en train de préserver la ressource qui est très clairement en péril. Donc voilà, donc il y a une vraie attention au fait de maintenir au maximum l'activité économique, de valoriser effectivement les efforts faits par les acteurs, le fait que, en plus, du coup, la volonté, elle est qu'également au niveau local. Donc, il est donc, d'ailleurs toujours possible hein, pour le préfet d'accorder une adaptation individuelle de la mesure, encore une fois, donc de juger. Alors, on y reviendra, c'est plutôt le sens de la première question. C'est de toute façon l'acteur qui est à la manœuvre, qui est compétent, c'est le préfet de département. Donc, même s'il y a une volonté ministérielle d'homogénéiser les pratiques qui étaient très hétérogènes, quand je dis sur 100 départements, c'était pas le cas. Jusqu'à présent, on avait 20 préfets qui, en réalité, faisaient de la sécheresse. Les autres étaient épargnés par cette gestion de crise, puisqu'effectivement, structurellement, dans les régions plutôt même du nord de la France, finalement, on n'avait pas à traiter ce genre de situation, sauf parfois sur des nappes souterraines. Donc là, désormais, on a l'ensemble des préfets qui se retrouvent embarqués dans la nécessité d'anticiper cette gestion de crise. Et effectivement, du coup, on essaye d'harmoniser ce qui peut se passer à la fois entre les préfectures et également, bien sûr, du coup, le fait qu'il serait un peu, il est jugé un peu étrange à chaque fois que quand on bascule en crise d'un côté, sur un département voisin, le département d'à côté qui connaîtrait la même situation en termes d'étiage, etc., lui n'est pris aucune mesure de restriction. Donc le but, c'est d'encourager ce dialogue du coup interdépartemental pour qu'encore une fois les mesures soient cohérentes, y compris pour l'ensemble des usagers. Donc c'est pour indiquer et c'est aussi hein, dans le plan eau annoncé par le président de la République, il y a bien la volonté de valoriser les acteurs qui font du recyclage, font de la réutilisation également des eaux usées traitées. C'est le sens aujourd'hui hein, de l'accord cadre qu'on est en train de travailler, y compris avec la Fédération de golf et l'ensemble des pelouses sportives, etc. Enfin, le but est de valoriser et de voir comment on adapte du coup les règles pour ceux qui, encore une fois, font leurs meilleurs efforts. Et accompagner par ailleurs ces acteurs si à un moment, et là c'est plus du ressort du ministère de l'écologie, encore une fois, hein, ça bascule du côté de Bercy, c'est qu'est-ce qui se passe quand par contre on met finalement à l'arrêt et au chômage technique un certain nombre de filières. Donc encore une fois, à l'instar d'ailleurs de ce qui peut se passer sur le monde agricole quand on est face à d'autres situations de crise, j'allais dire indépendant de notre volonté, donc souvent des conséquences météo, etc. Le but est de se collectivement en interministériel également échanger sur la façon dont on peut accompagner et soutenir financièrement ces filières qui effectivement du coup sont mises à l'arrêt par ces décisions administratives. Sur les différents. Oui, allez-y.
Non, mais merci. En tout cas, donc moi, ce que je comprends, hein, ce que je retiens de vos propos, c'est d'inviter quelque part les secteurs concernés à ouvrir un dialogue avec à la fois vos services, sans doute, pour essayer peut-être d'avoir des plans d'action un peu interprofessionnels, et puis peut-être avoir un échange avec aussi les services du ministère de l'Industrie pour essayer d'accompagner éventuellement financièrement ces acteurs qui se retrouveraient contraints par des fermetures administratives au final. Et donc,
système assurantiel voilà. À mettre en place, à l'instar effectivement du coup d'autres crises qu'on arrive à gérer, notamment des calamités agricoles, etc. Donc on se retrouve effectivement dans ces situations-là qui sont pas forcément supportables par les acteurs concernés, effectivement, si on les laisse seuls.
Parfait, merci beaucoup. Le temps passe assez vite et je vais laisser la parole maintenant à Jean-Luc Perrin et donc à Loïc Malgorn de la DGPR. Il y a beaucoup de questions notamment qui concernent en particulier les industriels, savoir comment ils vont être traités en 2023 en fonction des situations de crise. Donc voilà, je leur laisse la parole et merci encore une fois beaucoup Madame Camille pour votre intervention, sachant que il y aura un replay qui sera disponible dans les prochains jours. Donc on n'hésitera pas aussi à vous diffuser très largement ce replay. Merci beaucoup. Et je laisse la parole à Monsieur Perrin.
Merci beaucoup. Donc maintenant que le panorama global a été planté par rapport à la situation actuelle, effectivement, on va passer un peu plus dans le détail de ce qui concerne, je dirais, le secteur sur lequel on a, entre guillemets, une police administrative, les installations classées pour la protection de l'environnement. Avant de replonger dans le présent immédiat, peut-être prendre deux secondes les uns les autres pour se remémorer un autre pan de l'action du gouvernement en ce moment, avec le plan eau, où on a, je dirais, une perspective peut-être un peu plus lointaine, mais pour lesquelles les conditions qui pourraient se présenter à nous ne sont pas forcément plus radieuses. Gardons-le en tête, et on a, c'est vrai, c'est une des difficultés de cette période, en particulier pour vous qui êtes aux commandes pour gérer une activité industrielle, de faire la part des choses entre une immédiateté dans laquelle on est plongé aujourd'hui, donc comme l'a détaillé Isabelle Camille, on essaie de mettre en place des dispositifs dont le but in fine est d'éviter de se retrouver en plein dans une situation de crise. Pour autant, il y a d'autres actions, je dirais, qui correspondent peut-être plus à vos habitudes, réflexion stratégique, mise en place de plans d'investissement, d'adaptation de production, etc., avec une optique stratégique, et ce qui sont pourtant plutôt couvertes par toute la galaxie de mesures du plan haut. Donc maintenant, replongeons dans... reconcentrons-nous sur ce qui arrive à court terme. Et un dernier mot avant de laisser la parole à Loïc Malgorn, donc chef du bureau de la nomenclature des émissions industrielles et de la pollution des eaux. Tout à l'heure, dans l'intervention d'Isabelle Camille, il y a quelque chose qui était vraiment très, très, très important, c'est de dire, après, in fine, c'est quand même le préfet qui est aux commandes dans son département, qui fait les choses. Pour ce qui concerne les installations classées, avec le soutien de l'ADREAL, en particulier des unités départementales de l'ADREAL. Donc avant de rentrer dans les mesures techniques, le déroulement fin, un message qu'on souhaitait passer, c'est ce qui est très important suite à ce webinaire. J'espère c'est que vous ayez compris un peu mieux ce qu'on souhaitait faire, mais surtout que vous gardiez l'idée de bien être au contact de l'ADREAL, des autorités préfectorales directement ou par d'autres intermédiaires pour bien suivre, entre guillemets, l'actualité fine de ce qui va se passer, où on en est des différents stades, quelle est l'appréciation des différents acteurs, en particulier administratifs, pour savoir si on a des chances importantes ou pas de basculer d'une étape à l'autre, et que réciproquement, chacun sache bien quels sont les enjeux. Vous, de votre part, savoir comment les autorités administratives appréhendent une situation à date, et quelles sont les perspectives qu'elles ont en tête, et réciproquement pour l'administration, d'avoir en tête des particularités par rapport à telle ou telle entreprise qui pourrait, nécessiter une attention particulière. Et là, je reprends ce qui était dit tout à l'heure par M. Sureau, autorité administrative au sens large. Voilà. Loïc, je te passe la parole.
Merci, Jean-Luc. Donc Loïc Malgorn, et je suis dans la sous-direction de Jean-Luc Perrin. Donc je vais vous parler plus particulièrement des installations classées pour la protection de l'environnement, hein, donc des enjeux relatifs à vos activités industrielles, pour vous parler un petit peu donc de ce qu'on fait nous dans ce domaine-là, en lien avec la sécheresse. Bon, le contexte, en fait, on l'a vu juste avant, donc je vais passer rapidement ces diapositives, mais qui étaient surtout là pour vous dire qu'en fait, on est dans une situation maintenant qui devient pérenne de sécheresse avec une tension forte sur la ressource. C'est un sujet que jusqu'à présent, on ne regardait pas trop parce qu'on n'avait pas de souci d'eau, parce qu'elle coûtait pas trop cher, et donc on n'y portait pas forcément d'attention. Enfin, et là, forcément, maintenant, on va le regarder avec un prisme différent, puisque, comme vous l'avez vu l'an dernier, et déjà aussi cette année, beaucoup de départements sont en vigilance, déjà, voire en crise, du point de vue de la sécheresse. Donc l'eau va coûter plus cher, elle va être plus rare, et on va être obligé de regarder ces sujets avec plus d'attention qu'on ne le faisait auparavant, même si, bien sûr, vous y étiez déjà très attentif. Déjà, un élément de contexte pour vous dire que la réglementation sur les ICPE, il y a cette arrêté du 2 février 1998 qui réglemente les prélèvements des installations soumises à autorisation, qui s'applique donc pratiquement à l'ensemble des installations soumises à autorisation, hein, un peu plus de 20 000 en France, et qui dit déjà que l'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour utiliser de façon efficace, économe et durable la ressource en eau. Et là, on prône le développement, le recyclage, la réutilisation des eaux. Donc, c'est déjà quelque chose qui existe dans la réglementation et qui vous incite à y porter attention. Le plan d'eau a été abordé tout à l'heure par Jean-Luc Perrin. Donc, il a été pris par le gouvernement ce 30 mars. Vous avez le lien là pour y avoir accès. Donc, c'est intéressant de voir déjà les prélèvements et la consommation. Donc vous êtes tout en bas à droite. Alors non, tout en bas, c'est les usages agricoles avec 58%. Pardon. Mais là, on voit, oui, mais donc juste au-dessus, vous avez les usages industriels qui, eux, représentent 4% de la consommation au niveau national. C'est donc de vous que nous nous occupons et de ces 4%. Ce plan eau, donc, a plusieurs mesures, hein, il y en a une cinquantaine. Donc il y a la mesure numéro 2 qui dit que pour les industries, il va falloir accompagner au moins 50 sites industriels avec le plus fort potentiel de réduction, et le démarrage des travaux est immédiat dès la parution du plan. Donc nous avons en lien avec les unités régionales, enfin les unités départementales et les DREAL, nous leur avons demandé de nous remonter une liste d'établissements qui sont concernés. Et pour établir cette liste, nous leur avons transmis la liste des 200 plus gros préleveurs d'eau. Puisque vous avez une obligation de renseigner les volumes d'eau que vous prélevez, quel que soit le milieu, et que vous rejetez, hein, c'est une obligation qui est dans la réglementation installation classée, et vous devez la déclarer annuellement dans l'outil qu'on appelle GREP. On leur a donné aussi la liste des 200 plus gros consommateurs d'eau, puisque prélèvement n'est pas consommation. On a vu tout à l'heure que la consommation était de 4%. Ensuite, on leur a donné la liste des zones qui étaient en tension. Et on leur a demandé par rapport à ça, par rapport à leur connaissance du terrain et par rapport au retour qu'ils ont pu avoir avec certains d'entre vous lorsqu'il y a eu des échanges, mais échanges qui n'ont pas été systématiques, de pouvoir aussi axer la définition de cette liste sur les établissements pour lesquels il y a un réel potentiel technique de réduction des consommations. Voilà. Et donc, partant de ça, on a eu une remontée d'à peu près 70 sites et qui est en train d'être finalisée et qui sera transmise pour validation au cabinet du ministre. Sur ce sujet-là, avant que cette liste ne soit, enfin, lorsqu'elle aura été validée au niveau du ministère, bien évidemment, il y aura une information spécifique qui sera faite de chacun des sites qui sera dans cette liste pour que vous sachiez que vous êtes concernés. Alors, les DREAL ont déjà prévenu certains d'entre vous qu'elles faisaient remonter votre nom, enfin, ou le nom de votre établissement dans cette liste, ce qui ne veut pas dire que vous serez obligatoirement retenu, puisque comme je vous l'ai dit, on en a plus de sites qui ont été remontés que de sites qui finalement seront retenus. Cet axe concerne aussi l'accompagnement, donc ça veut dire qu'il y aura un accompagnement qui sera mis en place. Donc là, c'est le ministère des Finances qui va voir justement quel levier il peut utiliser, notamment pour essayer de trouver des financements via les agences de l'eau pour pouvoir mettre en place ces réductions sur les sites. Donc ça va passer par un dialogue entre l'inspection, éventuellement donc les services qui s'occupent des DRETS dans les départements et les régions, pour voir quel levier vous pouvez mettre en place, sous quel délai. Donc ça se fera vraisemblablement par arrêté préfectoral, et on a bien conscience que la majeure partie du temps, les actions ne pourront pas se faire tout de suite et que ça va prendre du temps parce que c'est généralement associé à des investissements qui peuvent être lourds financièrement. Donc voilà sur cette action en quelques mots. Deuxième action qui nous concerne, et ça a été aussi abordé par la direction de l'eau et de la biodiversité par Madame Camille, c'est le guide sécheresse. Donc il est déjà publié. Et en lien avec ce guide sécheresse, donc nous avons le fameux arrêté ministériel sécheresse, enfin dit sécheresse, mais qui en fait s'appelle arrêté relatif aux mesures de restriction en période de sécheresse portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des ICPE. Donc j'ai vu qu'il y avait plusieurs questions, hein, je vais essayer d'y répondre en même temps que je ferai la présentation, et puis autrement je pourrai y répondre, ou nous pourrons y répondre à la fin. Pour vous dire qu'il y a déjà eu la consultation des parties prenantes, on a eu beaucoup, beaucoup de retours, et on vous remercie d'ailleurs, alors c'est les fédérations professionnelles hein, qui sont consultées, de nous avoir transmis ces retours qui nous ont permis d'améliorer le texte. En ce moment, le texte est à la consultation du public, donc il y a pas mal de différences entre le texte qui vous avait été soumis et celui qui est en consultation du public, puisque forcément, nous avons essayé de retenir, lorsque cela était pertinent, les observations que vous nous aviez faites. Ce texte passe demain en mission interministérielle de l'eau et il sera présenté au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 20 juin. Le CSPRT est l'organe en fait que nous consultons systématiquement pour tous les textes qui concernent les ICPE et dans lequel toutes les fédérations, enfin toutes les parties prenantes sont représentées. Donc il y a des représentants des fédérations professionnelles, des ONG, des syndicats, de l'inspection, des maires et puis aussi des experts qui sont là et aussi des représentants des ministères intéressés. Alors je vais revenir maintenant plus dans le détail de cet arrêté. Pour vous dire qu'il ne s'applique qu'aux installations qui relèvent de l'autorisation et de l'enregistrement. Donc les installations qui relèvent de la déclaration ne sont pas concernées. Bien sûr, si elles sont sur un établissement qui est autorisé ou enregistré, elles sont comprises dans le cadre de l'établissement et là, ça s'appliquera à elles. Nous avons souhaité limiter le champ aux installations qui prélèvent plus de 10 000 m3 par an. Donc dans la version qui avait été soumise à la consultation du public, il n'y avait pas de limite. Et le texte appliqué à tous. Et là, nous avons estimé qu'il fallait un volume minimum pour que ça s'applique, pour justement éviter d'alourdir administrativement les obligations qui allaient peser sur vous et qui, pour des volumes faibles, étaient plutôt administratives. Alors, il y a un point qui est important, c'est qu'il écrit que c'est sans préjudice des arrêtés préfectoraux qui pourraient être pris, donc que ce soit l'arrêté d'orientation, l'arrêté 4 sécheresse ou les arrêtés de restriction, voire même de l'arrêté préfectoral, ce qui veut dire que tous les textes s'appliquent. Les arrêtés locaux ainsi que l'arrêté ministériel s'appliquent tous concomitamment, donc de la même manière. Que se passe-t-il si vous avez une prescription qui est plus pénalisante dans un texte que dans l'autre? Eh bien, c'est la prescription la plus pénalisante qui s'applique. Donc, par exemple, si nous on dit que en cas de crise, on arrête complètement l'activité, enfin, en l'occurrence, c'est pas le cas, c'est 20% de réduction, et que dans le texte préfectoral, c'est 10%, comme 20% est plus pénalisant que 10%, c'est le 20% qui s'applique. Donc le texte de l'arrêté préfectoral sécheresse qui vous dirait 10% est écrasé par l'arrêté ministériel puisque l'arrêté ministériel est plus sévère. En revanche, si l'arrêté préfectoral dit 30% de réduction en cas de niveau de crise atteint et que nous sommes à 20, c'est le 30% de l'arrêté préfectoral qui s'applique. Donc c'est important ça de bien voir que les textes s'appliquent tous concomitamment en même temps et que c'est la prescription la plus pénalisante qui s'applique. Dans cet arrêté toujours, on a fait pas mal de définitions et on a amélioré aussi les choses puisqu'on a eu pas mal de questions sur le sujet. Bon, je passe. Donc l'article 2, donc lui c'est celui qui précise les restrictions qui vont s'appliquer pour votre établissement industriel, s'il fait plus de 10 000 m3 par an de prélèvement, en fonction du niveau de gravité qui va être atteint. Donc si on est en niveau de vigilance, donc là c'est une procédure qui doit être mise en place et qui permet de sensibiliser le personnel, mais voilà, mais vous n'avez pas attendu de sensibiliser, vous n'avez pas attendu pour sensibiliser le personnel d'être en période de sécheresse. Et ensuite, donc, par rapport aux trois niveaux, alerte renforcée et crise, eh bien, il est demandé dans cet arrêté une réduction du prélèvement de respectivement 5%, 10% et 25%. On a précisé aussi comment on devait se calculer ce prélèvement, puisque c'était pas encore suffisamment précis, donc vous verrez tout ça dans le texte. C'est en fonction du volume prélevé moyen journalier, calculé sur l'année précédente, etc. Enfin, tout ça est bien décrit dans le texte que vous pouvez consulter aujourd'hui sur le site du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Et si le prélèvement et le rejet sont dans la même masse d'eau, en fait, la réduction s'applique à la consommation. Donc à la consommation nette, puisque si vous rejetez dans le même masse d'eau, on va prendre en compte que ce que vous consommez réellement et pas ce que vous prélevez, sachant que dans la majeure partie des cas, vous rejetez pratiquement tout ce que vous prélevez. Toujours à cet article 2, on dit que certaines utilisations qui sont faites de l'eau ne sont pas prises en compte pour ces calculs, et c'est tout ce qui va concerner de près ou de loin la sécurité ou la santé. Donc c'est-à-dire que les volumes dont vous avez besoin pour la défense incendie, pour les douches ou la cantine de l'entreprise, etc., ne sont évidemment pas pris en compte dans ces réductions. Vous pourrez continuer d'utiliser ces volumes-là. Ensuite, en fonction de différents niveaux, si on atteint les niveaux d'alerte renforcée ou de crise, il est prévu une transmission hebdomadaire à l'inspection des installations classées des volumes prélevés et consommés. Donc là, c'est une obligation qui va peser sur vous dès lors que vous êtes concerné par le texte et que votre établissement est dans une zone concernée. Alors on va développer un outil justement pour faciliter ce rapportage. Il est en train d'être élaboré en ce moment. L'article 3 permet certaines exemptions uniquement des réductions qu'on vient de voir juste avant, là, les 5, 10 et 20%. Et donc là, il y a une liste d'installations qui est assez courte, en fait, où on voit que c'est les installations en lien avec la santé, avec la production d'eau. Alors là, on a bien précisé, c'est l'eau potable. Donc celui, par exemple, qui ferait des boissons énergisantes ou des sodas n'est pas concerné par cette exemption. C'est vraiment l'eau que nous pouvons utiliser, nous, pour boire ou que nous allons acheter. Il y a aussi l'industrie agroalimentaire de première transformation pour éviter que les données, les matières premières justement qui sont périssables ne puissent plus être utilisées. Voilà, donc il y a différents secteurs. Donc il y a une forte demande de chaque fédération professionnelle qui nous a écrit de faire partie de cette liste d'exemptions avec à chaque fois un argumentaire valable, qui nous aurait donné envie de vous associer tous à cette exemption, mais justement comme chacun avait des bonnes raisons de l'être, en fait on mettait tout le monde dedans et donc c'était pas possible, donc on en est resté à la liste initiale. Voilà, donc je suis désolé pour vous. La liste reste assez fermée puisque c'est vraiment ceux qu'on exempte, c'est ceux dont on estime que le fonctionnement est vraiment nécessaire, même si le fonctionnement de tous est nécessaire, notamment d'un point de vue économique. Après, dans les exemptions, il y en a deux autres qui sont importantes. C'est ceux qui font des efforts ou ont déjà fait des efforts sur la réduction des quantités d'eau qu'ils prélèvent depuis plusieurs années. Donc là, on a mis une date pour savoir à partir de quand ça s'appliquait, et c'est celle du 1er janvier 2018. Et là, il y a une différence importante, c'est que dans le texte, on avait mis 15% potentiellement de baisse de prélèvement, et on a porté cette valeur-là à 20%, donc une valeur plus stricte, et qui s'explique parce que lorsqu'on a fait l'analyse plus fine dans la base de données GIREP, dans laquelle vous renseignez les émissions polluantes de vos activités et les consommations d'eau, eh bien, on s'est rendu compte que depuis 2018, et je vous en félicite, on avait une baisse des prélèvements en moyenne supérieure à 17%, que ce soit dans le réseau d'alimentation en eau potable, dans le milieu naturel, eau souterraine ou eau superficielle. Donc ça montre bien déjà l'effort qu'a consenti important l'industrie depuis 2018, puisqu'on est, je vous dis, à des seuils qui sont supérieurs à 17%. Et donc si on avait laissé cette valeur de 15% telle qu'elle était dans l'arrêté ministériel, eh bien ça voulait dire que notre arrêté se vider de sa substance et que en moyenne tous les établissements étaient exemptés. Alors c'est pas vrai, hein, puisque quand c'est une moyenne, il y en a qui ont fait de gros efforts et il y en a qui n'en ont pas fait du tout. Voilà, mais donc ce qui explique la modification de cette valeur. Autre point aussi, c'est on a voulu prendre en compte les efforts, puisque c'est l'un des axes du gouvernement aussi, c'est de favoriser la réutilisation des eaux usées. Et donc ceux qui réussissent et qui font des efforts en ce sens pourront bénéficier des exemptions. Alors malheureusement, il y a certains secteurs industriels comme l'agroalimentaire qui aujourd'hui en sont de fait exclus, puisque le Code de la santé publique prévoit un décret pour que la réutilisation puisse se faire, et ce décret est actuellement, je crois, parti en consultation du public, ou enfin il est sur le point d'aboutir, même si après, bien sûr, il faudra un arrêté d'application. Donc cette activité-là de l'industrie agroalimentaire est pénalisée parce que les textes l'empêchent pour le moment d'opérer des réutilisations de ces eaux usées. L'article 4 précise différentes choses, et notamment les documents que vous devez établir et tenir à la disposition de l'inspection. En fait, pour tout ça, il faut bien qu'on sache combien vous consommez, combien vous prélevez, où est-ce que vous le faites, quels sont vos besoins pour les points en lien avec la santé, la sécurité, etc., pour pouvoir vérifier ensuite si vous respectez ou non le texte, si vous faites partie des exemptions ou pas. Et justement, si vous faites partie des exemptions, eh bien, il faudra pouvoir le démontrer à l'inspection des installations classées. Voilà sur cet article 4. Alors, l'article 5 est important, puisqu'il dit qu'il donne la possibilité au préfet d'adapter les dispositions de l'arrêté ministériel aux circonstances locales. Donc, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Nous sommes obligés au niveau national d'avoir une réglementation qui s'applique à tous de la même manière, harmonisée. Et cette réglementation-là ne permet pas de prendre en compte les spécificités locales, des zones qui seraient plus en tension que d'autres, des secteurs d'activité qui seraient plus essentiels que d'autres, parce que il y a toujours des spécificités. Et donc, le préfet pourra, lorsque notre arrêté ministériel sera pris, dire que telle ou telle prescription ne s'applique pas à tel ou tel site, ou de manière générale, et renvoyer sur l'arrêté sécheresse qu'il aurait pris, par exemple. Donc c'est une possibilité importante qui est laissée dans cet arrêté et qui permet vraiment d'aller au plus proche de vos activités. Voilà sur cet aspect arrêté sécheresse. Je répondrai ensuite aux questions, parce que je suis désolé, je les ai pas vus, nous y répondrons en même temps, et j'étais concentré sur la présentation. Dernier point, c'est les actions nationales 2023 de l'inspection des installations classées. Donc tous les ans, le ministre en charge chargé des installations classées, établit une circulaire à destination des préfets qui donne en gros le programme de ce que fait en plus l'inspection des installations classées, puisque ça s'ajoute à son travail quotidien. Et donc dans les parmi les priorités, puisque en fait c'est le retour d'expérience de l'an dernier, hein, il y a une action spécifique sur la sécheresse qui dit que pour tous les sites qui n'auraient pas dans leurs arrêtés préfectoraux des prescriptions spécifiques sécheresse, et là on s'adresse toujours aux plus gros consommateurs, eh bien il faudra compléter ces arrêtés et aussi aller voir sur ces sites qu'ils, lorsqu'ils auront les prescriptions, ou pour ceux qui en ont déjà, eh bien est-ce que vous êtes bien en capacité de mettre en œuvre les prescriptions qui sont mentionnées. Voilà, et j'ai terminé pour cette partie.
Merci beaucoup pour donc cette présentation. Et donc, en effet, pas mal de questions. Alors, peut-être, je vous en cite peut-être plusieurs, et puis comme ça, après, vous pourrez y répondre. Une des premières questions, ça concerne la mesure, justement, de cette consommation. Est-ce qu'elle se fait du point de vue d'une valeur absolue? Ou est-ce que c'est au prorata, notamment, de la production? On peut imaginer, notamment, qu'entre 2018 et 2022, un site se soit développé, se soit étendu, et donc, du coup, il a pu baisser son prélèvement et sa consommation au regard de sa production qui a augmenté, mais, en revanche, sa consommation globale a augmenté en valeur absolue. Donc, comment est-ce qu'on prend en compte éventuellement ces effets donc liés à des développements intervenus notamment depuis 2018.
Je vais peut-être y répondre. Ouais. En fait, ça va peut-être plus simple si je réponds à la suite, d'autant plus que j'ai une mémoire de poisson rouge et je m'en voudrais de ne pas pouvoir répondre précisément. Donc là, malheureusement, on n'a pas la possibilité de prendre en compte les évolutions de sites qui auraient augmenté leur capacité de production, qui auraient fait des efforts par rapport à la partie initiale et qui d'ailleurs, pour la nouvelle partie, seraient au top du top des restrictions d'eau. Et donc, c'est bien par la valeur brute telle qu'elle est affichée pour l'année en cours. Voilà, donc c'est un des écueils de ce texte, de ne pas pouvoir prendre en compte ses capacités d'évolution, enfin les augmentations qu'il aurait pu y avoir sur un site.
D'accord. D'autres questions sur, notamment sur, au niveau de plateformes industrielles ou de sites qui sont en synergie avec d'autres et donc qui ont des échanges de flux. Comment est-ce que là aussi se fait cette mesure? Est-ce que c'est au regard de chaque site, hein, sachant que parfois ça risque de pénaliser l'un des deux. Donc comment en fait se fait cette mesure quand on a notamment des échanges de flux d'eau entre plusieurs sites?
Alors l'arrêté s'applique à l'exploitant ICPE, donc il ne s'applique qu'aux ICPE. Hein. Donc tous ceux qui sont en dehors du champ de la réglementation ICPE, bien sûr, ne sont pas concernés. Donc si on est sur une plateforme et qu'on a un industriel qui est ICPE et qui fournit de l'eau à tous les autres industriels, eh bien la réduction va s'appliquer à lui. Ça veut dire qu'il va être obligé de réduire les prélèvements et de... Alors tout ceci s'applique bien sûr que si on est en crise et en alerte renforcée. Hein. Même s'il y a beaucoup d'établissements, de départements qui l'étaient l'an dernier, mais donc tous les autres ne seront pas concernés tant que ces niveaux ne sont pas atteints. Mais donc ça s'applique à l'industriel qui va fournir si l'installation classée, et par répercussion ça va s'appliquer aussi aux industriels qui reçoivent et qui utilisent ces flux d'eau, puisqu'ils sont aussi ICPE, ils utilisent aussi des flux d'eau, et il est précisé dans le texte que le prélèvement, ça concerne le réseau d'alimentation d'eau potable, ça concerne les prélèvements dans le milieu naturel, mais ça concerne aussi, c'est peut-être une modification qu'on a faite qui n'apparaît, que je n'ai pas mentionné, mais ça concerne aussi les autres apports par un autre réseau d'alimentation en eau. Donc dès lors qu'un industriel fournit une eau, quelle que soit sa qualité, généralement c'est pas de l'eau potable mais ça peut être de l'eau industrielle, eh bien elle rentre dans ce schéma et elle s'applique donc à celui qui fournit l'eau s'il est ICPE et à celui qui l'utilise s'il est ICPE également.
Alors, autre question, donc si on est amené à réduire sa consommation d'eau, on peut se retrouver à concentrer du coup des polluants et donc peut-être à ne plus respecter les valeurs limites de rejet qui concernent ces polluants. Comment est pris en compte cette contradiction entre quelque part l'effort de réduction qui est consenti et éventuellement ces valeurs limites qui s'imposent?
les valeurs limites d'émission restent opposables quoi qu'il arrive. Donc, vous devez les respecter avant rejet dans le milieu. Donc, ça veut dire que si vos effluents sont trop concentrés, eh bien, il faut peut-être mettre en place des techniques de concentration de ces effluents pour les faire éliminer à l'extérieur et les traiter comme déchets avec, du coup, un coût supplémentaire. Ou alors, peut-être que, par moment, une dérogation pourrait être obtenue s'il est démontré que le milieu est en capacité d'accepter ponctuellement des concentrations différentes, sachant que si c'est des concentrations qui dépendent d'un arrêté ministériel, il y a de grandes chances qu'on ne puisse pas y déroger. Et si c'est votre arrêté préfectoral qui est plus strict que un arrêté ministériel sectoriel, si ça vous a été fixé, c'est pas basé sur une étude d'impact que vous auriez faite, et c'est donc bien adapté au milieu dans lequel vous rejetez et à ce que vous faites. Donc je crains que les demandes de dérogation sur ces aspects-là aient peu de chances d'aboutir favorablement. Donc ça va passer pour moi par un surcoût en faisant éliminer différemment vos effluents si c'est possible, ou par une diminution d'activité.
D'accord. Donc dans le projet, il est également prévu de ne pas tenir compte des eaux nécessaires, notamment à la sécurité des installations et aux installations sanitaires, enfin la partie sanitaire. Mais plusieurs entreprises n'ont pas forcément, ne sont pas capables de différencier les consommations liées au process et ces consommations liées à tout ce qui est connexe. Comment est-ce que va être pris en compte justement éventuellement ces réductions de consommation, de prélèvement, et comment est-ce qu'une entreprise peut arriver à déduire finalement ces volumes liés à la sécurité et aux installations sanitaires?
Bon, généralement, il y a quand même pas mal de données qui existent dans la bibliographie sur la consommation d'eau par le personnel d'une entreprise sur un site. Il y a déjà des choses normalement qui doivent être dans vos dossiers de demande d'autorisation environnementale sur les consommations d'eau, puisque ce sont des données qui aujourd'hui sont obligatoires. Donc, on a déjà une idée de ces choses-là. Et puis après, bon, on compte aussi sur les fédérations professionnelles pour aider leurs adhérents et puis pour la reporter, pourquoi pas, des valeurs et des chiffres qui leur permettront de déduire cette part-là. Et après, on peut peut-être mettre en commun aussi tout ça pour favoriser aussi la communication.
Ok. Une question concernant l'article 5 aussi. Vous avez dit au début que finalement c'était les objectifs les plus restrictifs qui s'appliquaient, et en même temps vous offrez la possibilité au préfet quelque part de, entre guillemets, déroger à cet arrêté ministériel. Donc ça veut dire que au cas par cas, potentiellement, si l'arrêté considère que c'est pas 20% mais plutôt 10% qui peuvent s'appliquer, il peut appliquer un objectif de réduction qui serait moindre, c'est ça ?
Exactement. En fait, le préfet est celui qui a la meilleure connaissance locale de ce qui se passe chez lui. Et donc, un même bassin en tension, avec un même niveau d'alerte, va pas être en tension de la même manière d'une région à une autre. Et où nous, on a fixé 20%, eh bien peut-être que le préfet, lui, peut fixer 30%. Ou 15, enfin ça dépend de quel côté on se place et de quelle valeur on parle, mais bien sûr donc le préfet peut adapter localement les dispositions qui sont dans cet arrêté pour les faire coller au mieux à la situation de son département.
Et est-ce que ce texte s'appliquera aussi aux territoires d'outre-mer qui ont des enjeux peut-être différents par rapport à la gestion de l'eau?
Alors, il s'applique aussi aux départements ultramarins, puisqu'ils sont aussi soumis à la réglementation ICPE. Après, en revanche, les remontées qu'on a eues, nous, des Guyanes notamment, étaient qu'il y avait, aux Réunions, qu'il n'y avait pas de problème de sécheresse chez eux. Donc, le texte s'applique de la même manière sur tout le territoire français, métropolitain et ultramarin. Et après, bien sûr, si on n'est pas en tension, il est sans objet.
D'accord. Notre question sur la définition d'une entreprise agroalimentaire de première transformation. Est-ce qu'on parle du meunier notamment, qui transforme le blé en farine, ou d'autres, ou est-ce que c'est un peu plus large que sur la chaîne de valeur?
Ben c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est le meunier qui fait la première transformation du grain de blé parce qu'il va le moudre dans ses moulins.
D'accord, ok. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir passer toutes les questions parce qu'elles sont nombreuses et on a déjà passé le temps.
Ce que je vois quand même, c'est que bon, d'une part, il y a encore un processus de consultation hein, qui est en cours, hein, consultation publique, passage au CSPRT notamment. Donc potentiellement, le texte est amené à évoluer. Je pense que beaucoup de professions vont de nouveau vous faire part de leur réflexion, commentaires. Et sans doute, est-ce que vous avez prévu un temps d'explication quand même, parce que au regard des questions qui sont posées, éventuellement que je vous transmettrai après, c'est vrai que voilà, il y a quand même des sujets, notamment sur la capacité à mesurer. Vous avez parlé tout à l'heure de consommation, de prélèvement. Voilà, il y a pas mal de choses. Est-ce que vous avez prévu un temps d'explication a posteriori, une fois que l'arrêté sera pris?
On a prévu un guide de mise en œuvre à destination et de l'inspection et des exploitants, où d'ailleurs toutes les bonnes volontés pour en améliorer le contenu seront les bienvenues. On envisage aussi de faire ce qu'on appelle les mardis de la DGPR, où on propose sur un sujet d'en parler ou bien en présentiel ou en visioconférence un mardi. Voilà, sauf que là, par rapport au créneau, ça ne serait qu'à la rentrée prochaine, donc à partir de septembre. Mais donc, c'est quelque chose que nous envisageons justement pour parler plus longuement de ce texte à tous et qui serait couplé peut-être avec l'arrêté ministériel sur les substances perfluorées, les PFAS, qui va être signé prochainement.
D'accord. Parce que ce qui n'a peut-être pas été très clair, c'est que potentiellement cet arrêté s'appliquera à l'été 2023. Hein. Donc clairement, les entreprises qui seraient concernées par ces nouvelles obligations ont finalement très peu de temps pour se retourner et d'une part mesurer ce qu'elles consomment, d'autre part peut-être voir dans quelle mesure elles peuvent rentrer dans ces règles de dérogation et puis investir dans des mesures, ou en tout cas organiser les mesures de restriction. C'est des délais très très courts hein, qui sont quand même envisagés.
Oui, bien sûr. Donc vous avez raison de le signaler. C'est vrai que ça va aller très vite. Nous, une publication a été annoncée pour la fin du mois de juin. Donc je vous ai dit que ça passerait au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques le 20 juin. Et la signature de cet arrêté se ferait dans la foulée. Donc il y a encore la phase de consultation du public hein, qui est en cours, et puis aussi bien sûr le CSPRT pendant lequel les fédérations professionnelles et les ONG peuvent intervenir pour faire évoluer le texte. Voilà, mais la date d'entrée en vigueur du texte est là c'est pas précisé, et donc quand c'est pas précisé, ça veut dire qu'il entre en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel. Donc ça va aller très vite, ça veut dire qu'il faut s'y préparer dès maintenant, surtout si vous êtes dans des zones qui sont aujourd'hui concernés par un niveau d'alerte ou qui l'ont été, qui vont l'être parce que manifestement vous n'y couperez pas cet été. Il est donc important de pouvoir vous préparer déjà et voir si vous pouvez bénéficier des exemptions qui sont dans ce projet de texte et établir justement les documents qui permettront de le démontrer à l'inspection. Et si vous n'y êtes pas, eh bien vous préparez, si vous ne pouvez pas bénéficier de ces exemptions, vous préparez aux réductions que vous devrez respecter. Voilà, alors après, il faudra voir aussi localement si le préfet adapte ou pas et s'il prend des dispositions différentes qui sont dans celles de l'arrêté ministériel. Mais souvent, on a aussi des choses qui sont plus restrictives aujourd'hui dans les arrêtés cadres que dans notre arrêté ministériel. Donc, il ne remet pas forcément en cause tous les travaux menés jusqu'à présent. Donc après, on a apporté une précision dans le texte qui n'était pas dans celui sur la consultation des parties prenantes, qui était que lorsque les seuils étaient atteints et que les réductions doivent être faites, eh bien on vous laisse un délai de 3 jours en fait pour pouvoir le mettre en œuvre, parce qu'on sait que ça peut pas se faire du jour au lendemain, et on a même conscience que 3 jours c'est très court, mais d'un autre côté, quand on est dans ces périodes-là, c'est vraiment qu'il y a une forte tension sur la ressource, et il faut aussi que des mesures soient prises et par tous les protagonistes.
Ok, en tout cas, rendez-vous est pris pour à la fois le mardi de la DGPR et puis sans doute encore quelques réunions de concertation. Merci beaucoup pour ces éléments. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter avec vous de tous ces sujets-là. En tout cas, voilà, c'est vrai que c'est clairement un sujet
dont on voit bien qu'il mobilise beaucoup d'entreprises, de professions, les entreprises se mettent en ordre de marche pour essayer d'améliorer la gestion de l'eau. Mais c'est vrai que, comme beaucoup de sujets de la transition écologique, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il y a forcément un temps d'adaptation, un temps d'investissement, et c'est bien de ça dont on va sans doute reparler dans les prochaines semaines et dont vont parler les entreprises avec l'Ordreal pour essayer de gérer encore ces périodes de crise. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot de conclusion.
Peut-être reprendre un peu l'élargissement et la perche que vous nous tendiez. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a... Je dirais c'est quelques mois, c'est quelques années. On a un panorama qui est un peu délicat à gérer avec deux types de choses. Enfin, c'est comme un peu comme en photo. On essaie d'avoir les personnes, qui sont près de l'objectif clair, bien focus. Et puis, on voudrait aussi avoir le paysage qui est au loin derrière clair. Tout cela est un peu difficile parfois, et c'est un peu le même type d'exercice auquel vous êtes confronté, vous, au quotidien, en ce moment et dans les mois qui viennent. Donc, redire, on comprend tout à fait la difficulté. C'est tout à votre honneur de dire: un texte réglementaire, on regarde comment l'appliquer, on l'applique comme on sait le faire en chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on va faire, on met en face les moyens, on planifie la mise en œuvre, tout cela est carré, bien organisé, responsable. Par rapport à des situations où on est un peu dans l'urgence. Donc il y a eu toute une démarche depuis la fin de l'été dernier, j'ose pas dire la fin de la sécheresse, comme le disait Isabelle Camine tout à l'heure. On ne sait pas s'il y a eu une fin de cet épisode de sécheresse. Donc depuis la fin septembre, il y a eu toute une série d'étapes de retour d'expérience, après de déplacements ministériels. Et il vous a pas échappé que depuis début du mois de janvier, chaque fois qu'un ministre était dans les territoires, cet aspect attention, la période à venir va être délicate du point de vue de la ressource en eau, comme on le disait, c'est une ressource qui est nécessaire, donc ça pose aussi d'autant plus de difficultés d'arriver à jauger des réductions d'emplois d'eau, etc. Et on est dans une démarche où on essaie d'anticiper au mieux quelque chose, mais malheureusement le mur, s'il y en a un par rapport à la disponibilité en eau par rapport à la période d'été et devant nous. Donc c'est quelque chose qui est délicat. Puis après, on aura sans doute l'occasion de rediscuter un peu plus en détail et dans d'autres instances des choses sur lesquelles vous serez peut-être un peu plus à l'aise, qui sont à horizon 2030, puisque c'est ce qu'on nous demandait à un moment dans une question, les mesures du plan eau. Quelles sont leurs échéances plutôt de 2030, où là, on sera dans des choses, même si c'est quand même, demain, parce qu'on n'a pas énormément d'années, mais des choses sur lesquelles vous avez un petit peu plus de temps pour faire le métier que vous connaissez bien, anticiper, déterminer les grandes options stratégiques, faire un plan d'investissement et le réaliser.
Merci beaucoup. Et justement, donc on se retrouvera le 21 juin prochain pour justement échanger sur ces aspects-là, à la fois de gestion du court, moyen et long terme. Et donc, on organise un second webinaire, donc le 21 juin à 14h30.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.